VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 15 novembre 2021. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Rosine Monedzero.
Pour commencer, les titres.
Au moins 20 morts dans une attaque contre un détachement de gendarmerie dans le nord du Burkina Faso.
Et au Mali, 4 soldats ont été tués dans une attaque imputée aux djihadistes.
La France va plaider aujourd'hui à Bruxelles pour l'adoption de sanctions européennes contre la junte au pouvoir au Mali.
Au Soudan, le chef de la chaîne Al Jazeera a été arrêté et 6 manifestants anti-putsch tués.
Ne manquez pas notre passeport avec Élisée Ungpatin.
Pour l'instant, le journal.
Au Burkina Faso, au moins 20 personnes ont été tuées dans des attaques dans le nord du pays. Un détachement militaire a été la cible de groupes armés de Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
19 soldats et un civil ont été tués dimanche matin dans une double attaque du détachement de gendarmerie de Inata dans la région du Sahel, a annoncé le ministre de la Sécurité Maxime Koné sur la chaîne de télévision publique. Il s'agit d'un bilan provisoire, a-t-il insisté. Les patrons de la sécurité ont qualifié ces attaques de lâches et barbares. Il y a eu des combats avec nos forces qui ont tenu leur position, a-t-il dit sur le plateau du journal télévisé de 20h. Une vingtaine de rescapés ont été retrouvés et le ratissage se poursuit, a poursuivi le ministre Koné. En octobre 2018, une attaque armée avait eu lieu dans la même zone d'Inata. Mais l'armée burkinabé avait fait appel à la force française Barkhane qui avait réussi, avec ses moyens aériens, à neutraliser les assaillants. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Mali, 4 soldats maliens ont été tués et 14 blessés hier dans une attaque imputée aux djihadistes au nord-est de Bamako, près de la frontière mauritanienne, a annoncé l'armée nationale sur les réseaux sociaux. Les soldats du poste de Guéré dans la région de Nara ont vigoureusement repoussé une attaque d'un groupe armé terroriste, mot communément employé pour désigner les djihadistes, a dit l'armée. L'armée a fait état de 6 assaillants abattu.
Mali toujours, la France va plaider aujourd'hui à Bruxelles pour l'adoption de sanctions européennes contre la junte au pouvoir à Bamako, dans la foulée de celles annoncées par la CEDEAO. C'est ce qu'a annoncé hier la porte-parole de la diplomatie française. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
L'Union européenne doit adopter un cadre juridique rapidement afin de prendre des mesures restrictives similaire à celle de la CEDEAO contre ceux qui entravent la mise en œuvre de la transition, a déclaré Anne-Claire Legendre, porte-parole de la diplomatie française. Elle a précisé que le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, fera part de cette position lors d'une réunion de ses homologues des pays de l'UE. La CEDEAO a imposé le 7 novembre des sanctions individuelles aux membres de la junte à cause du retard pris dans l'organisation des élections. Bamako dit impossible l'organisation d'élections présidentielles et législatives en février 2022, comme annoncé auparavant. Jean-Yves Le Drian va aussi rappeler la vive préoccupation de la France concernant un possible recours par les autorités maliennes au groupe privé russe Wagner. Paris a averti Moscou que le déploiement de mercenaires russes dans la bande sahélo-saharienne serait inacceptable.
En République démocratique du Congo, au moins 3 personnes ont trouvé la mort dans une explosion qui s'est produite samedi dans une usine spécialisée dans la fabrication de produits alcoolisés à Lubumbashi. On déplore aussi plusieurs blessés, nous dit de Lubumbashi notre correspondant Narval Mabila.
L'explosion s'est produite samedi aux environs de 12 heures heure locale dans l'usine de l'entreprise Promedis spécialisée dans la fabrication de boissons alcoolisées. L'explosion a secoué les quartiers Moulao de la commune annexe. Plusieurs maisons environnantes portent les impacts. Les bilans provisoires, selon les informations recueillies sur place, fait état de plus de 3 morts et plusieurs blessés. Une habitante du quartier qui requiert l'anonymat explique au micro de VOA Afrique.
On a eu peur, nous on pensait peut-être que ce sont les Katakatanga qui entraient avec des explosions et tout, vraiment tous les quartiers étaient paniqués. Alors en quittant la parcelle, c'est alors que j'ai entendu les voisins dire que non, c'est l'usine des Indiens qui est non loin d'ici qui a explosé.
Les causes de l'explosion ne sont pas encore connues. Rémi Moussincé, bourgmestre de la commune annexe, fait les constats.
Effectivement, le constat est amer. Cette explosion à côté mort d'hommes. Bon, je ne sais pas dénombrer le nombre de morts, mais quand cela ne tient, nous avons quand même trouvé un corps ici. Une autre personne a été amenée, un autre corps a été amené au niveau d'après les informations de notre possession. Donc nous sommes en train de faire de cette enquête pour voir les causes réelles de cette explosion.
Les procureurs de la République a ouvert une enquête sur l'explosion afin de connaître les causes de l'explosion et d'établir les responsabilités. Lubumbashi Narval Mabila pour VO Afrique.
Au Soudan, les forces de sécurité ont arrêté hier le chef de bureau de la chaîne Qatari Al Jazeera à Khartoum, renforçant la pression sur les médias au lendemain de la mort de 6 manifestants lors d'une des journées les plus sanglantes depuis le putsch militaire. Après la détention de centaines de militants opposants et manifestants hostiles au coup d'État mené le 25 octobre par le général Abdel Fattah al-Burhan, les autorités ont perquisitionné la maison du chef de bureau d'Al Jazeera, Al-Moussalami Al-Kabachi, en Soudanais, et l'ont arrêté, selon la télévision satellitaire.
Al Jazeera a couvert et diffusé en direct les manifestations hostiles au putsch, mais la chaîne a aussi interviewé le général Burhan il y a moins d'une semaine, un des deux seuls entretiens qu'il a accordé depuis son coup de force. Dimanche, la chaîne a dit tenir les autorités soudanaises responsables de la sécurité de tous ses employés, ajoutant qu'elle continuera à couvrir les affaires mondiales avec professionnalisme.
L'opposant cubain Junior Garcia a été empêché dimanche de sortir défiler en solitaire à La Havane, le président Miguel Díaz-Canel dénonçant une volonté de perturber l'ordre interne à la veille d'une manifestation convoquée par la dissidence.
Le fils de l'ex-dictateur Muammar al-Khadhafi, Saif al-Islam, recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, a été le premier poids lourd de la vie politique libyenne à déposer sa candidature dimanche à la présidentielle prévue fin décembre.
Au Soudan, les forces de sécurité...
Passons maintenant à l'émissaire spécial de l'Union africaine pour la Corne de l'Afrique, Olusegun Obasanjo, qui espère toujours mettre fin à un an de guerre en Éthiopie par le dialogue, tout en prévenant dimanche qu'il ne peut commencer sans un cessez-le-feu immédiat. L'ancien président nigérian a quitté l'Éthiopie jeudi après avoir rencontré le premier ministre Abiy Ahmed et les dirigeants du groupe rebelle du TPLF, le Front de Libération du Peuple du Tigré.
Dans un communiqué publié hier par M. Obasanjo, s'est dit optimiste quant à la possibilité de trouver un terrain d'entente pour une résolution pacifique du conflit. Toutefois, les combats s'étant intensifiés ces dernières années et le TPLF ayant revendiqué d'importants gains territoriaux, il a averti que de tels pourparlers ne peuvent aboutir dans un contexte d'escalade des hostilités militaires.
Le secrétaire d'État américain,
la voix de l'Amérique,
Anthony Blinken, qui participe aux efforts internationaux pour un cessez-le-feu en Éthiopie, entame cette semaine par le Kenya une tournée qu'il mènera aussi au Nigeria et au Sénégal. Hier, le président kényan Uhuru Kenyatta, qui est également impliqué dans les tentatives de médiation régionale, s'est rendu en Éthiopie pour une visite surprise d'une journée et une rencontre avec le premier ministre Abiy Ahmed.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, la politique économique du président Joe Biden est de plus en plus critiquée selon une enquête de Washington Post et de la chaîne ABC. Les Américains vivent en effet une inflation inédite depuis 30 ans. Le point avec Nanit Talani.
Cette enquête d'opinion établit la cote de confiance du président Joe Biden à 41%. Elle indique que presque la moitié des Américains dans l'ensemble et des indépendants politiques blâment Biden pour la hausse rapide de l'inflation. L'enquête révèle aussi que plus de 6 Américains sur 10, dont 71% d'indépendants, disent que le président n'a pas accompli grand-chose après 10 mois au pouvoir. La cote d'approbation de Biden sur l'économie a chuté et se tient désormais à 39%. Dans un sondage en septembre, 45% d'Américains ont déclaré qu'ils approuvaient sa gestion de l'économie. Le principal conseiller économique du président, Brian Deese, assure que les réformes de Biden auraient un impact positif sur les prix. Le président doit signer aujourd'hui une loi consacrant 1200 milliards de dollars à des dépenses d'infrastructures. La Chambre des représentants doit examiner cette semaine un autre plan de 1750 milliards de dollars de dépenses sociales et d'investissement dans la transition énergétique.
Covid-19, le chancelier autrichien Alexander Schallenberg a annoncé hier l'entrée en vigueur dès ce lundi d'un confinement pour les personnes non vaccinées ou qui n'ont pas contracté récemment le Covid-19, une première dans l'Union européenne qui vise à endiguer le nombre record de nouveaux cas.
Pour sa part, l'Allemagne se prépare à un retour massif au télétravail selon un projet de loi consulté dimanche par l'AFP pour tenter d'enrayer une nouvelle vague de la pandémie. L'Allemagne fait face à une inquiétante résurgence de l'épidémie. Avec 289 cas pour 100 000 personnes, le taux d'infection a atteint dimanche un nouveau record dans le pays le plus peuplé d'Europe.
Le Maroc, important pays touristique, a décidé de renforcer les contrôles à ses frontières en raison de la hausse des cas de contamination en Europe. À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
De nouveaux qualifiés pour les barrages du Mondial Qatar 2022 Zone Afrique.
Après le Sénégal, le Maroc, le Mali et l'Égypte, la RDC et le Ghana ont composté leurs billets pour les barrages. Les Léopards qui doublent les écureuils du Bénin dans le sprint final à Kinshasa. Les Congolais remportent la finale du groupe J en s'imposant dans la polémique 2-0 avec un pénalty litigieux transformé par Dieu merci Mbokani. Un tournant défavorable pour les Béninois. Déçu, le sélectionneur des écureuils, Michel Dussuyé, s'explique.
Vous avez vu comment le match, hein? Il y a un fait de jeu qui penche en faveur des Congolais. En personne, je pense, même dans le stade, on a compris comment l'arbitre a fait siffler un penalty. Forcément, les données ont changé. La RDC a le but d'avance qui voulait chercher. Donc, malgré tout, l'équipe a su réagir, faire front, poser des problèmes à cette équipe de RDC. Il nous a manqué un poil de réussite pour recoller au score et mettre encore plus de doutes sur cette équipe. Non, le deuxième but nous fait très mal.
Le Ghana, de son côté, s'est remis à son capitaine André Ayou pour coiffer l'Afrique du Sud dans la finale du groupe G. 1-0, but marqué sur pénalty. Les Black Stars s'adjugent donc la première place devant les Bafana Bafana grâce à une meilleure attaque.
On connaît 6 des 10 qualifiés pour les barrages. Reste donc 4 tickets à prendre.
Oui, et ce sera attribué demain mardi. 4 affiches aux allures de finale avec le très attendu Côte d'Ivoire-Cameroun dans la poule D. Les deux équipes sont au coude à coude. 13 points pour les Ivoiriens et 12 pour les Camerounais. Tout se jouera demain à Douala, où les Lions indomptables ont besoin d'une victoire pour finir en tête. Le Burkina Faso, deuxième du groupe A, a aussi besoin d'une victoire à Blida pour passer devant l'Algérie. La finale du groupe C se jouera entre le Nigeria, qui a évité le piège Libéria, et le Cap-Vert, vainqueur de la Centrafrique. Avantage tout de même pour les Super Eagles, qui ont 2 points d'avance sur les Requins Bleus. Et puis, ce sera un duel à distance dans la poule B entre la Tunisie qui reçoit la Zambie et la Guinée équatoriale en déplacement en Mauritanie. Les Aigles de Carthage et le Zalaï National partagent la première place du groupe avec 10 points.
Football au féminin à présent, la première ligue des champions de la CAF se poursuit au Caire en Égypte.
Tout à fait. Et après les matchs de poule, place au début final. Et les deux affiches auront lieu aujourd'hui à 15h. Les Ghanéennes d'Asakas Lady affronteront les Marocaines des forces armées de Rabat. En deuxième heure, on va assister à l'opposition Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, Malabo King de la Guinée équatoriale et puis du basketball pour finir avec vous Idrissa. Les résultats des matchs joués cette nuit en NBA.
Brooklyn Nets et Oklahoma City 120 à 96. LA Lakers et San Antonio 114 à 106, Atlanta et Milwaukee 120 à 100, Charlotte et Golden State Warriors 106 à 102, Phoenix et Houston 115 à 89, Denver et Portland 124 à 95.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, le creusage d'un canal dans le côté nord-est de N'Djamena continue d'alimenter le débat dans la capitale. La population riveraine parle d'une tranchée de sécurité qui les sépare du reste de la ville. Pour le gouvernement de transition, c'est juste un canal pour moderniser la ville. Entre-temps, un chef de parti politique de l'opposition s'est constitué en parti civil pour porter plainte contre le gouvernement. André Kotmadjingar, notre correspondant à N'Djamena, fait le point.
Souleymane Abakaradan, ministre de la Sécurité publique, explique l'existence de ce canal par la volonté de moderniser la ville de N'Djamena.
Je me souviens très bien, en 2006-2007, il a été question de partager les eaux du fleuve Chari pour deux raisons. La première raison, c'est irriguer la ceinture verte. La deuxième raison, c'est de faire un grand calan que la population riveraine, de part et d'autre, bénéficie de cultures maraîchères. C'était ça l'idée de ce canal.
Le secrétaire général du parti, Un Nouveau Jour, Dr Nasra Dimasinga, estime que cet argument ne tient pas la route.
Faire des cultures, il faut des espaces. L'espace là est où? Quand le trou passe dans les maisons. Et les eaux du Charib, ces eaux-là sont où? J'invite ce ministre de la Sécurité, dès le mois de janvier-février, qu'on descende ensemble avec lui au fleuve Chari et qu'il me montre les eaux qu'il veut drainer pour aller arroser sa ceinture verte qui n'existe que de nom.
Le débat s'invite même dans les débits de boissons. Dans une alimentation située à un jeu de pierre du chantier, un canal d'environ 3 mètres de large et 2 mètres de profondeur et qui s'étend à près de 10 km, chacun va de son commentaire.
On va essayer de préparer, même non manger là-bas. C'est dangereux de
ça, c'est la fédération qui dit.
À quelques mètres de là, les riverains estiment que cette tranchée a plus d'inconvénients que d'avantages.
C'est un risque parce que les agresseurs là, ils vont venir s'installer là, ils vont tuer beaucoup de gens.
Nous d'ici, on paye aussi l'impôt, mais pourquoi l'État nous traite comme des animaux?
Moi j'ai 60 ans, j'ai peur de traverser ce trou qui est trop profond. Et nos enfants ne vont pas aller à l'école. Je suis veuve, je les ai inscrits avec l'argent de l'alcool traditionnel que je prépare.
On a les femmes en grossesse qui partent pour la visite prénatale, même c'est très difficile.
Le malheur des uns fait le bonheur des autres, dit un adage. Les chauffeurs de ben et les agents de police se frottent les mains, comme en témoigne ce jeune riverain.
Les gens qui viennent avec la machine pour creuser le trou là, ils vont les sables là encore.
Et ben à 7500, c'est comme une commerce quoi. Donc ça veut dire que c'est un trafic triangulaire. De là-bas, s'ils vendent tout comme ça, ça peut monter à 1 million.
Le jour le petit, la route seulement, ils sont en train de fermer un peu pour passer. Les gars, ils ont dormi à la maison seulement. Les deux policiers sont venus avec la moto. Ils sont arrêtés pour aller directement, ils payaient 10 000. C'est pas bon.
Le secrétaire général du parti Un Nouveau Jour, Dr Nasra Dimasinga, entend intenter une action en justice en procédure d'urgence pour demander l'arrêt immédiat de creusage de cette tranchée qui, selon lui, divise la ville en deux.
Nous croyons à notre justice. La procédure d'urgence, ça c'est en 2-3 semaines, ça va aboutir. Maintenant, au fond, quel que soit le temps que cela prendra, nous y tiendrons jusqu'à ce que l'État soit condamné et que cette condamnation-là soit exécutée.
Entre-temps, les travaux continuent, donnant du fil à retordre aux fonctionnaires, petits gagne-pains et aux élèves des quartiers périphériques de rallier le centre-ville. André Kodumadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM.
Au Soudan, samedi, des milliers de personnes ont bravé la peur de la répression et sont sorties dans les rues. Ils réclamaient encore une fois depuis le coup d'État du 25 octobre que les militaires remettent le pouvoir aux civils. Au moins 6 personnes ont été tuées et 300 blessées selon des sources médicales. De Khartoum, notre correspondante Patricia Hur.
De petits cortèges se forment en début d'après-midi. Révolution, non au pouvoir militaire, chantent les manifestants.
Les Soudanais ont souffert pendant trop longtemps. Il est temps qu'ils dirigent leur pays et pas qu'ils soient dirigés par les militaires.
À plusieurs reprises, là où se regroupent des manifestants, les forces de sécurité interviennent pour les disperser.
On essaie de construire une barricade ici pour nous protéger de la police, mais ils nous ont attaqués depuis là-bas au loin. Des gens ont fui, mais nous sommes restés pour protéger cette barrière que vous voyez là-bas.
Puis la foule grossit à plusieurs endroits dans la capitale Khartoum et ses banlieues. Plusieurs milliers de personnes sont dans les rues, mais les groupes peinent à se rassembler, bloqués par les barrages des militaires sur certains grands axes, sur les ponts et autour du quartier général de l'armée.
Personne ici n'est armé. Malgré ça, la police et les militaires utilisent leurs armes contre nous. Ils peuvent nous tuer.
Puis, des tirs sporadiques retentissent.
Ils utilisent des balles réelles, des grenades assourdissantes, des gaz lacrymogènes. Ils ne veulent pas que nous puissions montrer aux médias ce que veut la rue. C'est pour ça qu'ils dispersent chaque rassemblement. Et c'est inacceptable.
À l'hôpital Royal Caire à Khartoum, le docteur Oussama Selman a coordonné l'arrivée des blessés.
It was exhausting, actually.
C'était épuisant. Nous avons reçu beaucoup de patients, 29 au total, tous blessés par balles. Pour 7 d'entre eux, les balles avaient été tirées depuis des positions en hauteur, donc cela veut dire qu'il y avait des snipers. Et puis, il y a aussi des balles à fragmentation. Après être entrées dans le corps, elles se divisent en plusieurs morceaux. 4 blessés présentent ce type de blessure.
We had like 4 patients with this kind of injuries.
À Khartoum, Patricia Huon pour VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Accès aux soins du diabète, c'est le thème retenu pour l'édition 2021 de la Journée mondiale de lutte contre le diabète, célébrée hier par la communauté internationale. Elle sert à sensibiliser le grand public à la charge croissante de cette maladie et aux stratégies que les pays doivent mettre en œuvre pour la prévenir et la traiter. Au Gabon, pays classé 3e en Afrique subsaharienne parmi les nations les plus touchées par le diabète, notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze, nous fait découvrir la prise en charge des patients au centre hospitalier universitaire de la capitale gabonaise.
Sans suivi médical systématique, sans prise de sang régulière, il est facile de vivre pendant de longues années avec le diabète sans le savoir.
On attend que ça se présente, la glycémie.
Ce matin-là, docteur Ornella Mbamba, diabétologue, fait le tour des salles d'hospitalisation pour tester la glycémie des patients.
J'ai contrôlé, ça a donné 191. C'est dans la moyenne par rapport au fait qu'elle soit diabétique. Elle ne doit pas être en deçà de 70. Sinon, si elle est en deçà, c'est l'hypo.
Comme près d'un Gabonais sur 10, c'est par hasard que Stéphane Guéma a découvert son diabète il y a 30 ans.
Le plus difficile, c'est déjà l'accepter, en fait. Déjà d'accepter ça. Et quand on est plus jeune, c'est de comprendre qu'on n'est pas comme les autres. Et on est obligé de se ranger pour avoir une discipline de vie, une hygiène de vie correcte. Au fur et à mesure, il y a des complications du diabète. Par exemple, cette fissure qui est arrivée, donc il y a le problème de rein qui nécessite des dialyses à tout bout de champ.
Selon les spécialistes de la pathologie, c'est un taux de sucre trop élevé, plus d'un gramme 26 par litre de sang qui signe la maladie. D'où l'importance de se faire dépister, surtout si l'on est à risque. Docteur Daniela Ansam, chef de service endocrinologie du centre hospitalier universitaire de Libreville, reçoit en moyenne 60 à 70 patients par jour. La plupart présentent des complications liées au diabète de type 1 et 2.
Il y a le diabète de type 2 qui est à 80%. C'est celui en fait que nous retrouvons très souvent dans le service. C'est un diabète pas seulement du sujet âgé. Autrefois, on pensait que c'était le diabète du sujet âgé, mais également, il y a des enfants qui nous présentent donc des situations de diabète, donc de type 2. C'est un diabète qui, en fait, qui est complexe, qui est multifactoriel, notamment la sédentarité, l'obésité et le manque d'exercice physique.
Le sport aura pour résultat de faire baisser immédiatement le taux de glycémie dans le sang. La Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale supporte à 90% la prise en charge des patients. Mais c'est une situation encore loin d'être reluisante, car outre les médicaments, les appareils de contrôle de la glycémie sont hors de portée pour un grand nombre de malades. Libreville, Ismaël Obionzé pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Cameroun, 2 ans après le lancement de l'Observatoire du foncier, les permis miniers, les autorisations d'exploitation forestière, les concessions foncières et même certains grands projets d'infrastructure ont acquis des terres sans que toutes les parties prenantes soient informées. Un manquement qui accentue les conflits entre les communautés et les porteurs de grands projets. Différents acteurs de la gouvernance foncière se sont concertés sur la question à Yaoundé, nous dit notre correspondant sur place Emmanuel Jultap.
Au village Bourongo, situé dans la région de l'Est, les habitants prennent part à une réunion à la chefferie. Ils disent n'avoir pas été consultés avant l'attribution de leurs terres à certains exploitants miniers. Moussa Ngou, chef du village Bourongo.
Par rapport à l'arrivée des Chinois, ils disent qu'ils ont déjà les permis de recherche. C'est avec eux qu'ils négocient ou à Yaoundé ou à Bétoua. Quand ils arrivent, moi qui suis chef de village, ils ne viennent pas chez moi.
Bourongo est loin d'être un cas unique. À Ezeka, à une centaine de kilomètres de Yaoundé, Apollinaire Ngos mène au sein de sa communauté le difficile combat d'accès aux informations sur les transactions foncières. Son village est riverain d'une agro-industrie du palmier.
Donc, il y a beaucoup de choses que les communautés riveraines ignorent. Ils savent pas leurs droits. Un bon matin, ils arrivent, ils trouvent qu'on a mis des bornes devant leur maison. Ils ne peuvent pas travailler sur les périphéries.
Au cours de 2 jours d'une concertation à Yaoundé, la SNE, la Stratégie nationale d'engagement, une plateforme sur la gouvernance foncière, a posé le diagnostic sur l'opacité des transactions foncières.
Les informations sur les transactions foncières à grande échelle, pour le moment, ne sont pas disponibles à tout bout de chemin.
Michel Sonkwe, facilitatrice de la Stratégie nationale d'engagement.
Dans certains cas, il s'agit de transactions qui ont été faites il y a des années de cela et que les archives foncières n'étaient pas suffisamment sophistiquées et ne permettent pas d'avoir les documents dans un état vraiment consultable aujourd'hui. L'autre chose, c'est qu'il faut noter que ces documents-là ne sont pas publics, tous, du moins du point de vue de la loi. En général, il faut rédiger une demande pour accéder au régime foncier ou bien à d'autres structures. Ce n'est pas toujours facile d'avoir l'information.
Le Cameroun a lancé l'Observatoire du foncier en 2019 pour faciliter le suivi des transactions foncières à grande échelle et le suivi de ses investissements. Constante Kamga, chef de la division des études, de la planification et de la coopération au ministère des domaines, du cadastre et des affaires foncières.
L'Observatoire du foncier faisait partie d'une des recommandations lors de la semaine du foncier. Nous travaillons avec le CED pour les mécanismes de mise en place dans le cadre de l'informatisation, la modernisation des services fonciers. Nous voulons avoir plus de visibilité, plus de traçabilité par rapport à ces concessions-là.
D'après les experts, les communautés doivent avoir accès aux informations sur le demandeur de la terre, le processus d'acquisition, le type de projet à mener et les bonnes pratiques qui s'imposent à la compagnie ayant obtenu de grandes superficies de terre. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia et de Rosine Mounezero, Lionel Gahima à la mise en onde et Zuber El Taïb à la console. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.